Alain de Solminiac, évêque de Cahors de 1636 à 1659, sa vie et son œuvre. Bonjour à tous nos chers auditeurs de Saint-Gaudens, Toulouse, Lourdes, Figeac, Cahors, Gourdon et Saint-Céré. Aujourd'hui, dans l'émission Écho d'Église, nous recevons Étienne Beau, Christian Verdun et Gilles Chevriot. Pourquoi, me direz-vous ? Justement, voilà, Alain de Solminiac et son récit historique va sortir dans très peu de temps, puisque ce sera en mai 2018, autour de sa vie, certes, son œuvre, son histoire, en récit illustré. Bonjour Étienne Beau.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour Gilles.
Bonjour Martine. Bonjour.
Alors, je rappelle que Étienne Beau était professeur agrégé d'histoire chargé du service éducatif des archives du Lot, professeur honoraire au lycée Clément Marot de Cahors, chargé de cours d'histoire contemporaine à l'université de Toulouse 2, Le Mirail. Christian Verdun, professeur agrégé d'art plastique, plasticien et illustrateur. Et donc Gilles Chevriot, éditeur.
Oui, aujourd'hui éditeur.
Édicos. J'ai sous les yeux le bulletin d'inscription avec, je pense, la page de couverture. Sont colorés de façon agréable à l'œil. Les dessins sont très agréables à regarder. Et vous dites également que c'est un récit illustré, mais qui sera pour tous les âges, toute génération.
Oui. Là, il fallait que ce soit un ouvrage destiné à tous les âges. On s'est posé la question dès le début. Quel sera le public, le lectorat ?
C'est important.
Voilà. Donc, je pense qu'avec des images qui sont en fait des reconstitutions sérieuses et documentées, d'ailleurs, l'origine des documents, je les inscris à la fin de l'ouvrage. Chacun pourra retrouver. Et ça fait partie de la méthode que j'utilise depuis longtemps, s'appuyer sur des documents d'époque, les remettre évidemment dans le style qui est le mien, une image plus moderne, bien sûr. Je ne vais pas recopier telle quelle une gravure du XVIIe, donc je l'adapte, etc. En couleur, bien sûr. Des personnages qui semblent parler, mais on retrouve un peu ce qu'ils ont dit dans le récit, mais des personnages assez truculents, par exemple comme l'oncle d'Alain de Solminiac, qui était avant lui en poste, je dirais, à Périgueux, côté Périgueux, à Chancelade, oui. Etc. Donc, je parlais un petit peu d'humour tout à l'heure, par exemple, il y a un passage où c'est l'évêque de Tulle,
oui, qui vient pour Rocamadour.
Qui vient. Non, pas pour Rocamadour. Non, quand il est à Chancelade encore. Non, c'est pas Tulle.
Oui, c'est si, l'évêque de Tulle.
L'évêque de Tulle.
Qui vient visiter le chantier.
Ah, voilà, oui, qui vient visiter le chantier, voilà, de Chancelade, là,
où Solminiac était encore abbé.
Oui.
Dirigeait lui-même les travaux, etc. Donc j'ai fait opposer un personnage très pur, Alain de Solminiac, qui était là presque l'appel à la main, hein, comme l'a écrit. L'appel et la pioche à la main, comme l'a écrit Étienne, là, en contraste avec un évêque qui semblait sorti de son bureau et qui vient le critiquer un peu, etc. Donc là, l'humour avait sa place. Donc l'humour se trouve non pas dans le texte, mais dans l'image.
Oui, d'autant que j'ai eu l'honneur de pouvoir lire le texte. Et c'est vrai que le public va apprendre beaucoup de choses sur Alain de Solminiac, quelqu'un qui est vraiment resté très humain, quelqu'un qui au départ ne voulait pas être évêque, avait refusé. Je l'ai appris également.
Certainement, il ne voulait pas être évêque parce qu'il s'était consacré à son ordre, c'est-à-dire celui des chanoines de Saint-Augustin, à l'habit blanc, et il entendait consacrer sa vie à la réforme de ce monastère, dans la lignée de beaucoup d'abbés réformateurs qui, au XVIIe siècle, ont ramené toutes ces communautés très relâchées, d'hommes comme de femmes, dans le chemin d'une meilleure observance de l'idéal évangélique. Donc par conséquent, ça a été un véritable arrachement pour lui, quand, sur sa réputation d'abbé d'ailleurs, Richelieu a jeté les yeux sur lui pour en faire un évêque. parce qu'il avait lui-même, Richelieu, réformé son petit évêché à Luçon, ce fameux petit évêché le plus crotté de France, disait Richelieu. Et Richelieu, avant de devenir aumônier de Marie de Médicis, avait été lui-même évêque réformateur.
Voilà, et c'est vrai que dans ce texte, dans ce récit illustré, le public, le grand public, parce que c'est vrai que le texte est écrit avec des mots simples, compréhensibles par toute génération, va apprendre à la fois sur l'homme, qui est représenté souvent sur un portrait un peu sévère, mais alors qu'il était profondément humain, et sur l'homme qui ne va pas hésiter, comme vous disiez, Étienne Beau, à prendre la pelle et la pioche pour aller faire lui-même les travaux, parce que il n'avait pas forcément l'argent tout de suite, il n'avait pas forcément le monde qui suivait, et donc c'est lui-même qui s'y collait, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est vrai que c'est un personnage qui, pour la génération d'aujourd'hui, les jeunes générations d'aujourd'hui, peut être un modèle.
Dans la mesure où c'est un homme qui savait ce qu'il voulait et qui avait une volonté de faire, et puis une foi profonde qui faisait qu'il vivait sa vie d'évêque comme s'il avait été toujours moine dans un endroit fermé et protégé, évidemment. Ce qui fait que c'est son exemple de vie très austère, et très humaine aussi par certains côtés, qui pouvait faire taire les opposants, il y en a eu beaucoup, parce que lui-même donnait l'exemple, finalement. Et ça, il n'y a rien de mieux, finalement, à toutes les époques et sous tous les âges. Donc, il a réussi, de ce côté-là, en restant un moine, finalement, évêque, à telle enseigne qu'il a toujours porté son habit blanc, monastique.
Oui, tout à fait.
Et il a dit, voyez encore un trait d'humour, qu'on lui arracherait plutôt la peau que de lui enlever cet habit.
Absolument.
Pour l'habiller en violet, comme les évêques de l'époque, et d'aujourd'hui parfois aussi, sont habillés. Il avait des formules extrêmement percutantes, en voilà une, et évidemment, il était un peu redouté. L'envers de la médaille, c'est qu'il avait été abbé. Un abbé dans un monastère, c'est celui qui commande, c'est celui qui décide. Et alors, devenu évêque, il aurait voulu continuer à faire exactement pareil.
Oui, oui.
Seulement, c'était beaucoup plus difficile, parce qu'il était à la tête d'un des évêchés les plus grands de France,
grand,
peuplé
si
de 400 000 habitants, un évêché qui avait d'énormes revenus, et il y avait des corps constitués, il y avait un clergé de plus de 1000 titulaires. Il ne faisait pas avec eux ce qu'il faisait avec 50 moines.
Ça, c'est clair. Christian, comment vous êtes-vous ressenti face à cette histoire, ce récit historique par rapport à cet homme? Comment avez-vous ressenti les choses? Ce n'est pas, effectivement, nous ne sommes pas autant... Enfin, on voit Clément Marot, Villon, vous avez écrit sur des personnages emblématiques mais, et historiques. Comment vous avez abordé cet homme, cette histoire?
Écoutez, je connaissais très peu, en fait, la vie de Solmignac quand la chose m'a été proposée. Et comme vous parliez tout à l'heure, justement, d'un personnage très humain, dont Étienne n'a pas encore parlé, c'est les deux périodes qu'il a passées, des périodes dramatiques où la peste, il a vécu deux fois des périodes de peste et de choléra dans le département. Et je pense que là, il a eu une attitude exemplaire là-dessus. L'humanité du personnage transparaît là vraiment très très bien à travers ce récit. Et puis la dimension historique, moi j'ai pas un esprit très religieux si vous voulez, mais là j'étais d'accord pour faire ce travail parce que la dimension historique du personnage m'est bien apparue. En fait, il a été quand même plus de 20 ans évêque diocèse de Cahors, qui était un peu plus important, je crois, géographiquement que maintenant. Ces périodes de peste qui sont quand même très, très importantes, notamment un détail aussi, arriver à faire que les gens ne se battent plus en duel dans le département. Je pense qu'il a eu un rôle politique et je pense qu'il était aussi comte.
Voilà, comte, il était baron et comte de Cahors.
Tout à fait, oui. Oui, et en lisant le récit, je me suis fait la même remarque que vous en disant, mais finalement, il a joué un rôle politique aussi.
Absolument, moi, ça a été déterminant. Moi, j'ai bien apprécié ce personnage-là en lisant sa vie. Le fait qu'il ait été abbé, moine, etc., qu'il ait voulu garder un peu ce personnage de moine, d'abbé, en devenant, je crois qu'il gardait cet habit blanc sous ses habits, habits d'évêque. Donc ça montre bien. Et le fait qu'il ait été ami avec Saint Vincent de Paul, oui. On retrouve un peu le même genre de personnage. Et l'orphelinat qu'il a créé dans Cahors le prouve, le montre, etc. Et c'est toutes ces choses-là que vont découvrir les lecteurs.
Oui, c'est beaucoup appuyé sur Saint Vincent de Paul.
Oui, Saint Vincent de Paul était à Paris, au Louvre, oui. Au palais... Il était membre du Conseil de conscience, c'est-à-dire qu'il était très proche de Louis XIII et Richelieu d'abord, et de la régente ensuite Anne d'Autriche, qui était une femme très éclairée, ainsi que son mari, et qui voulait des évêques qui puissent réformer tous les dégâts qui avaient été commis dans les périodes précédentes. Et ainsi, ému par la vie d'Alain Solmignac, la régente l'a constamment soutenu contre ses ennemis, et l'a même invité à Paris, par exemple, quand on a posé la première pierre de la magnifique église Saint-Sulpice, que l'on connaît bien aujourd'hui à Paris, Alain Solmignac a été invité à Paris pour présider la cérémonie en présence de toute la cour. C'est montré ainsi que ce n'est pas simplement un homme replié sous son diocèse, c'est un homme qui a joué un rôle national, dans la mesure où on peut parler de rôle national à l'époque, bien sûr, complété aussi par le fait que pendant la guerre civile qui a affecté le Quercy, il a su toujours apporter son soutien au pouvoir royal, tandis que les grands seigneurs, les condés à Bordeaux ou ailleurs, étaient pour émietter en quelque sorte le pouvoir royal. Donc, un rôle politique, certainement, parce qu'il avait les deux attributs, chef spirituel, et également, rôle politique, puisque par héritage historique, il était baron et comte de Cahors.
Chers auditeurs, n'hésitez pas à souscrire à ce récit historique sur Alain de Solmignac, un récit écrit par Étienne Beau et illustré par Christian Verdun, édité aux éditions Edicos d'Arcambal. N'hésitez pas à le prendre parce que vraiment vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et apprendre également sur un personnage qui n'est pas très connu. Et c'est vrai qu'arrivant sur Cahors il y a quelques années, à l'église de Cahors, on ne parlait pas d'Alain de Solmignac. Donc je l'ai découvert par hasard et j'ai découvert les écrits donc d'Étienne Beau sur ce célèbre personnage. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci Étienne, merci Christian, merci Gilles d'être venu jusqu'à Radio Présence pour parler de ce grand personnage de l'Église catholique. Merci chers auditeurs et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission de Écho d'Église. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir Martine.
Au revoir et merci.